Radio Use.
Quel avenir pour l'audiovisuel public? Quelle réalité télé? Qui télécommande? Voilà, voilà l'objet du débat. On a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous des amis qui vont pouvoir à la fois nous éclairer sur les enjeux, à la fois poser des problématiques, de façon à ce qu'ensemble nous échangions sur à la fois la situation, mais aussi les perspectives. Alors d'abord, je vais présenter nos invités. De gauche à droite, mais n'y voyez aucune signification. Marcel Tria. Bon, ici, il joue un peu sur son terrain parce que, bien sûr, il vient chaque année. On a présenté plusieurs de ses films. Il a participé à des débats nombreux. Donc, je ne le présente pas. Journaliste à France 2, réalisateur de documentaires. Donc, on a pu voir un certain nombre ces dernières années. Et puis, un ami du Zest. Pierre-Henri Arnstam, qui a été aussi, notamment... En 68, un des animateurs des discussions, des débats et de tout ce qui s'est passé au sein de la grève des journalistes. Il était directeur de la rédaction de Antenne 2, puis de France 2. C'est une personnalité qui pourra aussi nous aider à réfléchir à la fois sur ce qui s'est passé et puis aussi les perspectives qu'il a en tant que professionnel. Parce que quand on passe par cette... Le sens qu'on donne au service public, la conception qu'on en a, je pense que c'est quelque chose qui ne nous lâche pas. Voilà. Pierre Mouchel, qui est secrétaire du syndicat des techniciens à Bordeaux, qui est également responsable du comité d'entreprise. Jean-François Théaldi, qui est secrétaire du syndicat national des journalistes, France Télévisions. Bon, ils sont à la CGT tous les deux, excusez-moi, j'ai peut-être... Et ensuite, Jean-Michel Monponté, dont vous avez pu voir tout à l'heure la projection à la salle des fêtes, de Autour de mon œil, puisque c'est une émission qui passe tous les samedis, je crois, à 13h15. Voilà. Et Maurice Felvic qui arrive. On a commencé avec Maurice cet après-midi, pour ceux qui étaient là, à partir des projections de ses œuvres. Je vous rappelle que demain matin à 10h, on projettera l'écho à la salle des fêtes, un film de Maurice avec Serge Reggiani. Et puis, on va passer de suite dans le vif du sujet. Il est évident que pour nous, à Uzest, l'idée de
révolter parfois le soir, et je le suis aussi, moi, quand je regarde mon journal, mais néanmoins, ce qui est en train de se passer, effectivement, Alain l'a rappelé, c'est quand même, depuis la casse de l'ORTF à 74, la première attaque d'envergure contre le service public de l'audiovisuel, y compris, encore une fois, l'Institut national de l'audiovisuel. Alors, je dirais que à la CGT, ça n'a pas été pour nous étonner quand on a entendu Sarkozy le 8 janvier au matin, parce que il faut savoir que en 2005, un sénateur de droite qui s'appelle le sénateur Bello avait pondu un rapport sénatorial à la demande de Raffarin, où il expliquait que notamment France 3 faisait mal son travail, c'est ce qu'on le reproche encore aujourd'hui d'ailleurs, et que il fallait développer les télévisions locales privées, appuyées sur les groupes de la presse quotidienne régionale, puisque vous le savez aujourd'hui, c'est une caractéristique française, mais on le retrouve dans l'ensemble des pays européens. On est face à la construction de grands groupes multimédia qui possèdent à la fois les journaux de presse écrite, des radios, voire des télévisions. C'est le cas de Sud-Ouest dans votre région. Donc dès 2005, ce sénateur Bello avait tracé le schéma que n'a fait que reprendre Sarkozy aujourd'hui, à savoir affaiblir France 3 par des moyens financiers, on y reviendra également, et permettre le développement donc, de télévisions locales privées appuyées sur la presse quotidienne régionale. Vous voyez ce que ça signifie en termes notamment d'information et de démocratie et de pluralisme. Déjà qu'on est dans un pays, je prends souvent cet exemple, qui n'a rien à envier à ce qu'était la liberté de parole et le pluralisme dans l'ex-Union soviétique. On est exactement dans la même situation aujourd'hui en termes de presse quotidienne régionale, puisque à part les Bouches-du-Rhône, où il y a encore la Provence et la Marseillaise, un quotidien de droite, un quotidien d'orientation communiste, dans toutes les autres régions, il y a un seul titre. Dans certaines régions, il y a encore deux titres qui à la une, mais les pages intérieures sont les mêmes. Et imaginez demain, vous levez avec votre radio appartenant à Sud-Ouest, allez acheter votre journal en partant au travail, vous achetez Sud-Ouest, et le soir, vous rentrez chez vous, vous regardez les informations sur la télévision locale privée qui appartient à Sud-Ouest. On est dans ce cas de figure. d'uniformisation et de fin de la démocratie en termes d'information, c'est un véritable enjeu. Je ne parlerai pas encore une fois des programmes, les copains y reviendront. Donc, le 8 janvier, on n'est pas étonné. On se met en ordre de marche immédiatement pour... parce que il y a eu des réactions, vous en avez peut-être eu vous aussi. Après tout, une télé sans pub, chapeau, la pub ça nous emmerde, c'est chiant. Bon, ça permet d'aller aux toilettes à l'interruption du film, mais pas sur le service public, mais sur TF1. Mais en attendant, la pub à France Télévisions, c'est 30% de nos revenus. Donc, sur une décision qui n'a pas été une décision réfléchie de Sarkozy le 8 janvier au matin, comme on a pu le dire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité, qu'il fallait qu'il occupe le devant de la scène, c'est une décision bien réfléchie, alors qu'il venait de signer l'année d'avant un contrat d'objectifs et de moyens avec Patrick de Carolis, qui fixait nos rentrées financières, nos sorties financières. Moins d'un an après, il remet en cause le contrat qu'il a signé, mais on a l'habitude avec lui, et il décide que du jour au lendemain, à la fin de l'année, France Télévisions sera amputée de 30% de son budget. Donc la CGT en a été très claire, ça a été un grand débat dans l'intersyndicale. Certains syndicats n'étaient pas a priori opposés à la suppression de la pub. Nous, on s'est battus depuis 7 mois avec nos experts, comités de groupe, pour essayer de trouver des modèles économiques alternatifs pour remplacer les 30% de pub qui vont nous manquer. Ça va commencer à la fin de l'année et puis ça sera définitif en 2011. On n'a pas trouvé. Et la commission COPE, qui a auditionné l'intersyndicale à 4 occasions, les parlementaires communistes et socialistes avec qui nous avons travaillé, qui étaient dans cette commission, pour essayer de trouver des modèles alternatifs. Pour le moment, nous ne les avons pas trouvés. Ce qu'avance Sarkozy, et je m'arrêterai là pour laisser la parole aux autres, ce qu'avance Sarkozy et ce sur quoi ils sont en train de travailler en ce moment même, ils ont travaillé tout le mois d'août là-dessus pour le présenter le 24 septembre au Conseil des ministres et pour le débat parlementaire à la rentrée d'automne, à la session d'automne. Les modèles qu'ils proposent, à savoir pour remplacer les 30% de pubs qui vont nous manquer par une taxe sur les fournisseurs d'accès Internet, sur la publicité des chaînes privées, c'est assez extraordinaire parce qu'on nous explique qu'il faut sucrer la pub pour rendre meilleurs les programmes. Et par ailleurs, on va rendre le service public dépendant des rentrées publicitaires des télés privées. C'est-à-dire au plus les programmes seront trash, au plus ils feront d'audimat, au plus il y aura de pub et au plus on sera financé. Philosophiquement, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, donc on n'a pas trouvé le moyen de financement. On sait très bien que les deux solutions proposées par Sarko, taxation de la pub et taxation des fournisseurs d'accès Internet, seront retoquées par la Commission européenne. On a rendez-vous avec Viviane Reding, la commissaire européenne aux médias, le 11 septembre à Bruxelles. On sait très bien que ça sera retoqué. Mais ce qui leur permettra de dire, et pour en finir, vous voyez, nous, on a voulu une télé meilleure, on a supprimé la pub à France Télévisions. On a proposé des solutions de financement alternatives qui ont été votées par le Parlement à la session d'automne. Et puis, l'Europe a retoqué. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute à l'Europe.
Alors, peut-être à Marcel, cette situation, si aujourd'hui Sarkozy et Copé peuvent se permettre d'aller aussi loin, c'est pas venu d'hier. Donc, des attaques successives ont eu lieu depuis un certain nombre d'années. Peut-être que toi, Marcel, qui a y compris fait partie du conseil d'administration de France Télévisions, tu peux nous éclairer.
Oui, parce que c'est une longue litanie, quoi. Hein, les relations entre... C'est bon, là, vous entendez ? Les relations entre les différents gouvernements de droite et de gauche et la télévision publique. Il y a des redites... au fil du temps. On va pas tout raconter depuis les années 60, mais quelques exemples. 74, Giscard arrive au pouvoir et la première chose qu'il fait, c'est le démantèlement de l'ORTF, découpé en 8 sociétés. Et puis une mesure dont on ne mesure pas tout de suite, on ne sent pas tout de suite la perversité. La redevance qui était gérée jusque-là par les chaînes publiques est rattachée au ministère des Finances. Ce qui fait que le gouvernement va avoir pouvoir de vie et de mort sur les chaînes privées. Il va pouvoir les financer comme il le veut. C'est lui qui gère comment il répartit la redevance, comment il finance les différentes chaînes publiques. Et donc, il va pouvoir quelqu'un qui lui déplaît, un président qui lui déplaît, une politique de chaîne qui lui déplaît, bah, il coupe les vivres. Voilà, c'est arrivé à plusieurs reprises. Et ça a eu des conséquences très, très, très dramatiques. Alors, bon, autre exemple. Bon, en 81, il y a eu un moment formidable. En 81, on a vécu ça avec Pierre-Henri. Il faut dire qu'avec Pierre-Henri, on se connaît depuis 1968. On a fait la grève ensemble en 68, on a été virés ensemble. Et puis, on s'est retrouvés après. On a été virés par la grande porte et on est rentrés par la fenêtre, les uns et les autres, plus tard. Donc, on a une vieille camaraderie à travers les temps. Bon, alors, en 81, il y a effectivement l'étau qui se desserre sur l'information. Ça, il faudra qu'on y revienne, hein, sur la complexité de cette ORTF dont a un peu parlé tout à l'heure Maurice Felvic, avec deux planètes très différentes. La planète info, complètement sous contrôle pendant très longtemps et très souvent, et puis la planète programme, beaucoup plus souple, hein, où on peut travailler beaucoup plus librement depuis le début. Mais très vite, qu'est-ce qui se passe? Prenons l'exemple de 1984. On est sous la gauche. Gouvernement Fabius, je crois, 84. Bon, un grand ami du président Mitterrand, un certain Rousselet, patron du G7, vous savez, les taxis G7, donc tout à fait préparé à faire de la télé, décide de créer une chaîne, c'est Canal+. Chaîne cryptée, chaîne privée, cryptée. Quelques mois plus tard, elle est au bord de la faillite. On a oublié ça, mais Canal+, ça a marché très très mal pendant très longtemps. Et assez vite, ça a été la faillite inévitable. Que fait le gouvernement Fabius? Pierre Bérégovoy, ministre des Finances, et son chef de cabinet, son directeur de cabinet, Naouri, qui a trimballé un certain nombre de casseroles par la suite, hein, des délits d'initiés, etc., décide deux choses. D'une part, de débloquer un crédit de 100 millions garanti par le Trésor, c'est-à-dire par l'État, c'est-à-dire votre argent, pour renflouer Canal+. Et d'autre part, prie gentiment TDF, qui s'occupe de la diffusion, et la SFP, qui fabrique des programmes, qui produit, de retarder le plus possible les factures à Canal+, ce qui les met dans des difficultés énormes, évidemment. Alors bon, on n'a pas oublié ce qui se passe. Mais ce n'est pas le seul exemple, d'ailleurs, à cette époque-là. Il y a aussi une histoire incroyable, c'est l'arrivée c'est la création de la 5. La création de la 5, c'est sous Mitterrand aussi. Alors la 5, qu'est-ce que c'est? Cette chaîne privée, là aussi. Et le tour de table, il y a des gens, c'est très improbable, il y a Lagardère, déjà, et il y a Berlusconi. C'est la gauche qui amène Berlusconi en France, alors qu'un an avant, le ministre de l'Information, le ministre de l'Information et de... qui s'appelait Filiou, Georges Filiou, hein, de la culture, de la communication, voilà, avait dit, moi, ministre, jamais Berlusconi mettra les pieds en France. Un an plus tard, d'ailleurs, on lui avait resservi son interview d'un an avant, quand Berlusconi est arrivé au journal de 13h. Il dit, tiens, vous avez dit ça il y a un an. Il était un peu embêté. Berlusconi, pourquoi? Parce que Berlusconi, à l'époque, est un ami très proche de Bettino Craxi, responsable socialiste italien, donc voilà, copain de copain, etc. Et la 5 s'installe, vous vous souvenez, les paillettes, etc. Et l'État fait une chose incroyable, il recommande de lui faire payer, de ne pas lui faire payer les droits dus aux artistes, réalisateurs, auteurs sur les programmes fournis par l'INA. À l'époque, l'INA produisait beaucoup d'émissions. Eh bien voilà, cadeau, la 5 n'aura pas à payer les droits d'auteur aux artistes, réalisateurs et auteurs. Qu'est-ce qu'ils font, les ayants droit en question? Ils font un procès, évidemment. Ils le gagnent. Ils ont gain de cause, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'INA qui va payer et qui est sommée par le gouvernement de fournir à la 5 des programmes à perte. Ça s'appelle un cadeau, ça, quand même. Hein. Énorme. Hein. La SFP, ben, c'est pareil. La 5 n'honore pas ses factures, elle ne paye pas, et puis il ne se passe rien. Le président de la 5, de la SFP de l'époque, un certain Philippe Guillaume, qu'on va connaître plus tard avec Pierre-Henri, puisqu'il va être président de France, d'Antenne 2, attaque en justice, et là se déclenche une haine épouvantable du gouvernement socialiste contre lui, qui va le poursuivre, parce qu'il va être nommé par la haute autorité président d'Antenne 2, et ils vont lui faire la peau, quoi. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la redevance, ben, il lui coupe les vivres et il l'oblige à démissionner. Et jusqu'à sa mort, ils vont le poursuivre de leur esprit de vengeance, quoi. Et puis alors, il y a 1986, privatisation de la première chaîne. Alors c'est, là aussi, c'est extraordinaire. Au moment où arrivent sur le marché les chaînes privées, pourquoi pas, hein, c'était la mode à l'époque. Bon, on veut bien, il y a des chaînes privées qui arrivent sur le marché un peu partout en Europe. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, ou l'Allemagne? On renforce le service public pour qu'il puisse résister. En France, qu'est-ce qu'on fait? La guerre va commencer, le plus gros régiment, on le donne au privé. La Une. La Une, c'est-à-dire la plus grosse chaîne, c'est-à-dire celle qui a les plus gros moyens, celle à qui on a donné des moyens pour qu'elle devienne une chaîne, la chaîne la plus vue, la plus écoutée, la plus suivie par les téléspectateurs. Et puis, rappelez-vous, à l'époque, quand on ouvrait son poste de télévision, on tombait sur la Une. C'est un cadeau monstrueux, quoi, hein, la Une. Voilà, alors, et puis ça continue comme ça, avec, à d'autres moments, eh bien, on décide que, par exemple, les chaînes publiques vont être obligées, au lieu de faire travailler la SFP, bah, de faire travailler des sociétés privées de production. Et là aussi, il y a des cadeaux extraordinaires, quoi. Voilà. Et puis, il y a l'histoire de la SFP. Ça, je pense qu'on y reviendra, parce que ça, c'est vraiment une infamie, ce qui est arrivé à la SFP.
Alors, tout à l'heure, Jean-François le mettait en évidence. On est devant un défi démocratique, tant sur les questions de l'information, mais aussi sur les questions de la création. Alors, moi, j'aurais envie de poser à Pierre-Henri Rantam, dans la mesure où il a été directeur de la rédaction d'Antenne 2 et de France 2, comment lui aussi il a vécu... cette période-là, parce que je suppose que ça n'a pas dû être tous les jours facile. Il y a dû y avoir des périodes de pression. Comment ça se passait? Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à une déclaration d'une amie à Marcel, de Arlette Chabon, qui, la semaine dernière, disait que pour elle... Non, c'était dans un article du Monde du 19 juin. Pour elle, il est hors de question de laisser la rédaction à des banquiers. C'était des journalistes. Et elle faisait la référence sur l'idée que le budget de la rédaction de France 2 avait baissé par rapport au budget de 1984. C'était 136,3 millions d'euros, je crois, maintenant. Et c'était 136,8 millions d'euros en 1984. Donc, c'est aussi, je dis ça pour Marcel parce qu'il a une attirance particulière avec Arlette Chabon. Et on pourra aussi discuter après de justement cette mobilisation qu'il y a parmi les journalistes et parmi le personnel. Voilà.
Oui, je ne vais pas vous raconter ma vie parce qu'elle est liée effectivement au journalisme et au journalisme de la télévision et avec les rapports difficiles, plus ou moins difficiles, ou plus ou moins faciles, entre les hommes politiques et la télévision. Il y a eu des époques différentes. Il y a une progression globale quand même. Hein. On ne peut pas dire que depuis 1965, quand j'ai débarqué là-bas et jusqu'à mon départ, il n'y a pas une progression de l'indépendance des rédactions par rapport à ce que j'ai connu en 65, en plein cœur du gaullisme, et où les journalistes pleuraient. Moi, j'arrivais depuis 3 mois, le soir de la première élection au suffrage universel, premier tour, et où De Gaulle a été mis en ballotage, et donc j'ai vu des confrères pleurer parce qu'il y avait ce résultat-là. Donc moi, j'étais jeune journaliste sortant de la fac, ayant fait de la philosophie, je me disais, mais dans quel monde je suis, quoi. Parce que les types que je croyais être des professionnels sérieux, ils avaient des larmes qui leur coulaient parce que leur chef avait été mis en ballotage. Bon, donc ça, c'était quelque chose de troublant. Ce qui était moins troublant et plus difficile, c'était l'existence d'un service de liaison interministérielle, le SLI, qui était un service tout à fait officiel, qui réunissait tous les matins un représentant de chaque ministère, et le SLI décidait de ce qu'il faudrait mettre dans le journal télévisé ou radio, hein, de Radio France, ou ce qu'il ne fallait pas mettre. Et donc, il y avait des motards de la gendarmerie qui apportaient les consignes du SLI chaque matin sur le bureau des rédacteurs en chef de la radio et de la télévision. Bon, ils étaient suffisamment malins pour ne pas appliquer toutes les consignes, parce que ça aurait été trop visible, mais enfin, disons qu'il y avait une bonne moitié, une grosse moitié des consignes qui étaient suivies des faits. C'est-à-dire qu'il y avait une conférence de rédaction normale où chacun disait, tiens, on pourrait parler de ça, on pourrait parler de ça, on pourrait parler de ça. Et puis finalement, il y avait un journal qui n'était pas exactement le même. Voilà. Bon, ça, c'était une période particulièrement difficile. Une autre période difficile, ça a été avec Poniatowski, à la fin du septennat de Giscard, qui a essayé, et le pauvre El Kabach, il n'a pas résisté suffisamment, d'influencer donc les responsables de la télévision pour faire passer Giscard une deuxième fois. Ils n'ont pas réussi, mais ça a été extrêmement violent à ce moment-là, et il y a eu des choses très, très, très dures qui ont été faites sur l'antenne. El Kabach est tendre, malheureusement, donc encore une fois, parce que ce n'est pas un mauvais journaliste, mais il a été faible à ce moment-là. Et puis, moi, j'ai affronté donc, une période difficile avant 1986, c'est-à-dire j'ai eu à la fois Fabius, dans un premier temps, comme directeur, donc quand j'ai été directeur, lui était Premier ministre, et j'ai eu Chirac ensuite, puisque c'était la première cohabitation. Et le plus difficile, finalement, ça n'a pas été avec Chirac, parce que comme il y avait Mitterrand à l'Élysée, Chirac à Matignon, il y avait un certain équilibre, on pouvait jouer, se faufiler un peu. Quand c'était Fabius, c'était terrible. Parce que c'était d'autant plus terrible que c'était pour la première fois quand même que la gauche était au pouvoir depuis quelques années, et que j'avais au téléphone des confrères de la presse écrite qui étaient devenus conseillers donc en communication du Premier ministre, et qui m'expliquaient que, puisqu'on avait le pouvoir, il fallait un peu en profiter, parce qu'on ne l'a pas eu souvent, donc il faut le faire. Alors, moi, évidemment, je n'étais pas d'accord avec ce système-là, et j'ai donc résisté. J'ai résisté une deuxième fois face à M. Manuel Valls en 2001, ça m'a été fatal. Mais donc,
vous racontez, ça.
Oui. Bon voilà, je vous raconte parce que ça n'a pas été rendu public. Donc, on est en 2001, le Premier ministre c'est M. Jospin, et il fait la tournée des chaînes, hein, c'est habituel, des premiers ministres de gauche comme de droite, ils vont une fois sur TF1, une fois sur France 2, une fois sur France 3, sur les grandes chaînes. Bon, quelquefois sur Canal, mais c'est rare. Et donc, c'était le tour de France 2. Et à l'époque, le présentateur que j'avais choisi pour la deuxième fois, parce que je l'avais déjà choisi 20 ans avant, pas 20 ans avant, 13 ans avant, c'était Claude Sirian. Ce jour-là, Jospin n'était pas très en forme, Claude toujours assez incisif, et à un moment donné, Jospin dit « Mais l'État ne peut pas tout faire, on parlait de délocalisation, de licenciement, de fermeture d'entreprise, l'État ne peut pas tout faire, il y a aussi le marché, etc. Bon. » Donc le lendemain, dans la presse, il se fait allumer. On dit vraiment il était très mauvais, puis pour comment se fait-il qu'un Premier ministre socialiste dise des choses pareilles? Et donc dans la journée, Manuel Valls, qui était son chargé de communication, m'appelle et il me dit Pierre-Henri, c'est scandaleux ce qui s'est passé hier. Je dis ah bon, scandaleux, pourquoi scandaleux? Il me dit parce que Sirian a posé de très mauvaises questions. Je dis non, c'est pas les questions qui étaient mauvaises, c'était les réponses qui étaient mauvaises. Et je raccroche. 2 heures plus tard, je suis convoqué chez le président de l'époque, donc M. Tessier, et il y avait la directrice générale qui était Michel Cotta, et ils me disent, Pierre-Henri, on a eu un coup de fil de Manuel Valls, vraiment, pourquoi t'as raccroché, etc. Je dis, vous raccrochez, parce que vraiment, je ne peux pas entendre des choses pareilles. Oui, mais Manuel Valls nous a téléphoné, et nous a dit la chose suivante. Tant que Sirian sera présentateur du journal télévisé de France 2, le Premier ministre ne reviendra pas sur France 2. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, moi, je ne fais rien, hein, mais je ne ferai rien. Moi, c'est moi qui ai choisi Claude, donc tant que je suis là, Claude présentera le journal. 3 mois plus tard, j'étais débarqué, brutalement, Claude, un mois après mon départ, et le Premier ministre est arrivé en septembre sur France 2. Voilà. Mais pour terminer, je voudrais, parce que on citait tout à l'heure des exemples du passé, de ce qui s'était passé contre le service public et pour ne pas l'encourager ou pour le déstabiliser. J'ai un texte là, c'est un tract, qui date du 24 juin 1987 et qui dit la chose suivante. Le Premier ministre lance une nouvelle offensive contre le service public en s'attaquant à ses ressources. Alors, je ne sais pas la CGT, excusez-moi, mais la CFDT et le SNJ ont appris avec effroi la volonté de supprimer la publicité sur les chaînes publiques. Une telle décision condamnerait Antenne 2 à brève échéance, au moment où elle est confrontée à une concurrence sauvage. Ses ressources doivent être au moins au même niveau que celles de son principal concurrent privé, aujourd'hui et demain. C'est aussi l'avis de Claude Contamine, président d'Antenne 2, ainsi que des spécialistes d'audiovisuel tels que le sénateur Jean Cluzel. Comment le Premier ministre compte-t-il compenser cette perte, si toutefois il en a l'intention ? Est-il prêt, dans cette logique, à imposer à son électorat une augmentation de la redevance de 100%, ce qui la porterait à 1012 francs, selon l'estimation du président Contamine ? La suppression de la publicité. À l'époque, 67% du budget d'Antenne 2, c'est 2 milliards de francs qui passent du service public à ses concurrents privés. L'enjeu de la bagarre sur le mode de financement du service public et son identité même, l'indépendance de son information, la qualité de ses programmes et la place de la création originale française. Triste bilan en moins d'un an, un véritable gâchis organisé de l'ensemble du secteur audiovisuel. Voilà, ça se passait donc en juin 87. À cette époque, Chirac, puisque c'était lui qui était Premier ministre, n'a pas été plus loin. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en est pas là.
Alors, Jean-Michel, là, on vient de parler un peu, Michel, pardon, de l'expérience de Pierre-Henri et de Marcel. Toi, aujourd'hui, tu es au cœur de la mêlée, dans l'information. Comment ça se passe ? Quelles sont les difficultés que tu rencontres ? Parce qu'en même temps, quand on dit que public et privé, ce n'est pas la même chose, toi, tu peux faire cette émission qui est quand même critique, à une heure d'écoute relativement honorable, sur une chaîne publique. Et comment ça se passe ? Tu as des pressions ?
J'ai des pressions. La belle question. Est-ce que tu imagines que je vais répondre oui ? J'ai des pressions, ils viennent regarder. On va juste essayer de déplacer le point de vue et de vous raconter d'où j'observe tout ça, en imaginant deux minutes qu'on soit tous devenus fous. Un instant seulement, mais ensemble. Donc, dans cette petite minute de folie, je vais dire des phrases totalement incohérentes. La première serait la suivante. Ce soir, j'ai une émission de télévision sur le service public à 20h30. Pourvu qu'un maximum de téléspectateurs aillent voir la concurrence, car sans ça, je n'aurai pas de financement. Vous allez me dire, il est fou. Nous vivons dans un pays où le chef de l'État annonce, dans les aciéries ou l'industrie automobile, la suppression de 35, 40, 50% du budget, comme ça, dans une conférence de presse. C'est toujours cette minute de folie. On se retrouverait à dire... On ne touche pas à la redevance parce que la redevance est très symbolique, psychologique. Donc on ne va pas aggraver le problème du pouvoir d'achat. Par contre, on va surfacturer les téléphones et Internet. Pendant ce temps, et nous sommes toujours dans la minute de folie pour ceux qui l'auraient oublié, les journalistes du service public de France Télévisions manifestent dans la rue au cri de « Rendez-nous la publicité !» La question sur cette... événement absolument rocambolesque qui s'appelle la suppression de la publicité, c'est que nous effectuons, comme rarement dans une expérience démocratique, un voyage au cœur même du mensonge du pouvoir. Et là où nous sommes sidérés de la modernité de ce mensonge, c'est que tout le monde sait que ce qu'on nous raconte est faux et personne ne fait rien. Et ça s'articule sur deux questions. La première est simple, simpliste, démagogique. Oh, TF1 et France 2, on ne fait pas la différence. Alors évidemment, il y a eu la petite crise de colère du président Carolis, mais globalement, si on interroge les gens dans la rue, on leur demande « Vous faites la différence entre France 2 et TF1 ?» Bah, c'est vrai qu'on fait venir Courbet d'un côté, c'est la même chose. Ou alors, pourquoi financer avec la redevance ? Supprimons la redevance, et puis supprimons le service public, puisque c'est la même chose. La question que personne ne pose, c'est à quel moment le service public et le privé se ressemblent à un seul moment. C'est le moment de l'information. On ne peut pas dire que Maupassant soit sur TF1. On ne peut pas dire que les émissions culturelles soient sur TF1. Il y a un moment où la chose est exactement similaire, identique. C'est le journal télévisé. Pourquoi ? Parce que c'est le nœud du pouvoir. Ce seul moment-là, personne n'ose venir dire à quel moment le pourquoi de cette ressemblance-là. Parce que c'est le nœud du pouvoir, c'est le nœud de la crise. Nous, à France Télévisions et à la rédaction de France 2, depuis le 9 janvier, on est totalement désemparés de par l'absurdité du débat. C'est-à-dire, on ne sait même pas sur quoi se battre, on ne sait même pas comment combattre. Qui est-ce qui va aller dire que je suis pour le maintien de la publicité ? Mais non, on est tous pour la suppression. Je suis pour une télévision qui tire vers le bas. Mais non, on est tous pour une télévision qui tire vers le haut. Et on y va, et on est embarqué dans ce système-là. Ce système-là, c'est ce spectacle extraordinaire du mensonge généralisé.
Pierre Mouchel.
Bonsoir. En général, quand je m'adresse à un groupe, je leur pose d'abord la question, qu'est-ce que vous pensez des médias ? Et d'habitude, j'en prends plein la figure. Puis on commence à discuter, on parle des médias, de l'audiovisuel, de France Télévisions. J'ai encore entendu tout à l'heure, là, avant le débat, oui, on paye la redevance, les programmes sont nuls. Sauf, moi, France 5, j'aime bien. Et puis un autre, ça va être France 4, un autre France 3 ou RFO. Donc chacun va y trouver dans toute la diversité des chaînes quelque chose qui va le toucher, qui lui plaît en fonction de ses envies. Un petit mot quand même sur la redevance. C'est 116 euros par an. Hein. 116 euros par an, il y en a 80 qui sont affectés à France Télévisions. Ça représente 22 centimes par jour. Voilà. Alors, je voudrais reposer la question... Pourquoi supprimer la pub ? C'est quoi le fond du problème ? Enfin, c'est ce qui était dans le titre du débat sur qui télécommande. En fait, c'est un transfert de fonds. On va concentrer un peu plus d'argent vers essentiellement TF1 et M6. Et le trou, il faut le combler. Donc, qui va payer ? Les pistes, eh bien, c'est d'abord, pour faire simple, les consommateurs. Parce que si on met une taxe sur Internet, la téléphonie, évidemment, à terme, ça sera le consommateur et le citoyen. Mais bon, on va essayer, compte tenu du contexte du pouvoir d'achat, peut-être de pas trop taxer le consommateur. Donc on va peut-être augmenter la redevance. Mais au final, c'est la même chose. C'est toujours le citoyen qui va payer. Et la troisième option, eh ben, c'est de diminuer le périmètre des chaînes. Donc, dans cet éventail des chaînes de France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5, RFO, France O et toutes les chaînes aussi auxquelles participe l'entreprise, eh bien, c'est d'en supprimer. De supprimer, pourquoi pas diminuer l'information régionale, fusionner des rédactions et mettre un peu plus à mal le pluralisme. Donc au final, ce sera aussi les salariés qui vont payer aussi leur part du saccage. France Télévisions, c'est quand même 11 000 salariés permanents, plus beaucoup d'intermittents. Les sources de diversification, parce que c'est une belle idée, tout le monde est d'accord, c'est une idée très consensuelle de supprimer la pub, on est tous d'accord. Mais la réalité, c'est comment on compense. Il y a d'autres pistes qui ne sont pas encore étudiées, parce qu'il y a des lobbies très, très puissants, qui seraient la gestion des droits. C'est-à-dire quand on produit et coproduit une émission, France Télévisions, avec un producteur privé, si la chaîne met 50% du financement, elle ne récupère que quelques diffusions de cette émission. Mais le producteur, lui, va exploiter cette émission à la vente sur d'autres chaînes, mais rien ne revient à l'audiovisuel. Toutes les chaînes à l'étranger, quand on rencontre des collaborateurs des chaînes étrangères, la première chose qu'ils nous demandent sur notre mode de fonctionnement, c'est comment vous gérez vos droits. Ben, nous, on n'en a pas. Donc ça pourrait être un mode alternatif. Mais je dirais malheureusement, nous, on était obligés de dire que la publicité, aujourd'hui, c'est un mal nécessaire pour l'audiovisuel public. Et puis derrière tout ça, bon, on a beaucoup parlé, enfin, ça a été évoqué dans la presse, derrière, bien en amont de la suppression de la pub, c'est le mécano industriel qu'il y a autour de TF1 et derrière de Bouygues. Bouygues qui souhaite se repositionner plus sur l'environnement en achetant Areva. Enfin, c'est un autre cadeau qu'on pourrait lui faire. Pour acheter Areva, ça coûte beaucoup d'argent, donc il faut vendre certains actifs. Pourquoi pas TF1 ? Il y a des acheteurs sur la place, pourquoi pas Lagardère ? Le problème, c'est que la conjoncture du marché publicitaire n'est quand même pas extraordinaire en ce moment, et ça serait bien que l'action de TF1 décolle. Alors effectivement, si on transfère une grosse partie des 800 millions de la publicité de France Télévisions à TF1, si on, dans le même paquet, puisque la loi va s'appeler le paquet média, On autorise la seconde coupure publicitaire dans les films. Si en plus on autorise, grâce à la directive européenne sur les médias qui va bientôt entrer en vigueur en France, si on autorise le placement de produits dans les fictions, si on autorise le changement de la publicité de l'heure d'horloge à l'heure glissante, c'est un peu complexe, mais ça permet d'augmenter le temps de publicité par heure, ça va faire un gain financier énorme pour toutes les chaînes privées, mais en premier lieu à presque 50% pour TF1. Et TF1 deviendra une chaîne vendable. Et donc, on retrouve derrière tout le mécano industriel. Après, il y a un effet d'aubaine pour le pouvoir. C'est que avec ce qui est en train de se passer, il a dans sa main l'audiovisuel public. Et il y a un enjeu démocratique derrière. Je voudrais juste reprendre la parole que je trouvais excellente de Jacques Rallet, qui a dit « On est en train de glisser de la démocratie à la démocrature ». Je pense qu'il est temps que chaque citoyen réfléchisse à ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quels sont les enjeux au niveau des enjeux démocratiques ?
Alors ça, on y reviendra si vous voulez, mais tous ensemble sur cette question-là. Comment les citoyens s'emparent de cet enjeu d'audiovisuel public qui nous appartient pour à la fois peser sur le contenu, qu'est-ce qu'on attend d'un service public de l'audiovisuel. Mais avant, voilà, avant de passer la parole à Maurice sur la dimension de la création dans l'audiovisuel public, une question mais qui est liée aussi, c'est sur la question de la régionalisation au travers de FR3, puisqu'on a parlé donc de passer de 13 à 7 stations, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est les stations FR3, enfin bon, région, par contre région. Sauf que moi j'ai lu un article par exemple ou une contribution d'un président de conseil régional à Auxet, qui est en Bretagne je crois, ou au Pays de Loire, qui lui veut absolument reprendre, il dit oui, nous on sait faire, vous voyez avec les transports, on sait faire, machin, nous on prend, on financera, etc. Donc les questions que je me pose, et en même temps on sait que FR3 dans les régions, il y a aussi encore des moyens, même s'ils sont en diminution, y compris sur les questions de création, de production, etc. Donc c'est aussi des enjeux ça sur la possibilité de création de chaînes dans les FR3 et puis sur l'ensemble de France Télévisions, puisque bon. Mais la question que je me pose moi en même temps, c'est que cette régionalisation, selon que l'on habite en Aquitaine, où là il y aura des moyens. Et y compris, ça pose la question derrière de l'indépendance. Comment ça va se passer si la région paye? Elle va vouloir avoir des retours et peser sur le contenu de l'information, mais des programmes de la chaîne régionale. Mais si j'habite dans le Limousin, par exemple, là, il y aura moins de moyens, etc. Donc la question de l'égalité des citoyens face à l'audiovisuel public sur l'ensemble du territoire national sera posée. Parce qu'en s'attaquant à une partie de France Télévisions et de la 3, par exemple, on est en train de démanteler l'ensemble de l'audiovisuel public national. On voit bien qu'il y a une cohérence avec, comme le disait Pierre tout à l'heure, chacun de ces outils-là. Donc moi, j'aimerais bien avoir le point de vue sur cette question-là, la régionalisation. Et puis après, on passera la parole à Maurice sur la question de la création, puisque lui, c'est un pur produit, entre guillemets, de l'audiovisuel public, 23 films pour l'audiovisuel public, il a vécu aussi ces périodes. Cet après-midi, on a eu un débat et on est revenu, et Maurice revenait très fort sur, oui, on peut encore passer, par exemple, jusqu'au bout à 20h30 sur FR3, c'était FR3. Bon, ça, c'est la différence avec TF1, par exemple, ou une chaîne privée. Sauf que moi, je me posais la question, et j'arrêterai là. Le gouverneur de la Rosée, qu'on a vu hier, ce magnifique film avec des acteurs qui parlent en créole, un film qui dure 104 minutes, qui parle en français avec un accent... je ne sais pas si aujourd'hui, y compris sur une chaîne publique, on le passerait à 20h30, pour tout un tas de raisons, mais y compris sur cette idée quand même qu'on vit dans la période où c'est le plus bas dénominateur commun qui gère ce qu'on peut amener à penser, à réfléchir parmi les citoyens, quoi. Donc voilà. Donc je passe la parole sur la régionalisation et Maurice, après, tu reviens sur la création.
Sur cette question, je crois, Michel disait tout à l'heure qu'on est dans une vaste entreprise de fumisterie telle que Sarkozy en a l'habitude. C'est la même chose sur ce que vient d'évoquer Alain. Parce que quand on a rencontré Copé plusieurs fois, dans des réunions off y compris, il dit, mais monsieur Taldi, je ne comprends pas, parce que la CGT, vous êtes pour la régionalisation, donc c'est bien ce qu'on veut faire, on veut donner plus de pouvoir aux régions, à France 3, limiter la rédaction nationale, les programmes nationaux, faire un peu comme on fait en Allemagne, avec les télévisions régionales dans les Länder, etc. Ben, bien sûr qu'on ne peut pas être contre. Sauf que la télévision régionale d'Allemagne, c'est 10 fois plus de personnel et de moyens qu'en a France 3 actuellement. Donc, si vous nous donnez les moyens qu'ont les télévisions allemandes, il n'y a pas de problème. Sauf que ce n'est pas ça qu'ils veulent faire. Quand ils ont proposé, effectivement, les deux orientations, tout à l'heure, je parlais des alliances avec la presse quotidienne régionale, leur autre idée, effectivement, qui était avancée dans toujours ce fameux rapport Bello en 2005, c'était qu'effectivement, France 3 passe des accords avec les conseils régionaux pour avoir des financements. Alors, je crois qu'on ne peut pas être contre que les conseils régionaux participent au financement des infrastructures. De toute façon, c'est dans la loi. C'est déjà le cas. La plupart, soit des conseils généraux, soit des conseils régionaux, financent les installations de France 3 dans ce qu'on appelle les bornes audiovisuelles, c'est-à-dire dans les... quand vous avez deux journalistes à Guéret, par exemple, ou deux journalistes à Mont-de-Marsan ou à Dax, bon... bien souvent, les locaux sont financés par les conseils régionaux. Sauf que ce qu'ils veulent faire, c'est pas ça. Ce qu'ils veulent faire, d'une part, c'est réduire le nombre de régions. Et France 3, il y a une pub qui était assez importante qui disait France 3, c'est au coin de la rue, hein, c'est la télévision au coin de la rue, c'est la télévision de proximité, c'est ce qui fait sa force, des journalistes ou des techniciens qui sont ancrés dans la vie locale, dans la vie sociétale de leur région, qui sont là. Et aujourd'hui, on nous explique que pour rendre plus fort France 3, il faudrait passer de 15 régions à 7 régions. Et on en arriverait, par exemple, en termes d'information, à ce qui se passe durant l'été, et notamment durant cet été, aujourd'hui, avec la restriction déjà de la pub, parce que depuis l'annonce de Sarkozy, c'est déjà des dizaines de millions d'euros qui sont pas rentrés dans les caisses de France 3, puisque déjà, les annonceurs se positionnent sur TF1 pour 2009. Donc, ce qui se passe, c'est que ben, l'été, vous avez ce qu'on appelle des journaux grande région. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur Bordeaux, Pierre pourra le dire, mais moi, je suis dans la région Méditerranée. Il y a un journal à Nice, un journal à Marseille. Ben, l'été, pendant 2 mois, il y a un journal grande région où le niçois, il a l'info de Marseille et le marseillais les infos de Nice. Et la moralité, c'est que depuis des années qu'on fonctionne, qu'on a mis en place ce système de journal grande région, on perd la moitié de l'audience parce que les téléspectateurs, ce qu'ils veulent, c'est la spécificité de France 3. C'est de l'info locale près de chez lui, avec des gens qui connaissent les tenants et les aboutissants de la chose, et pas des gens qui viennent comme quand on va dans les banlieues, quand il y a une bagnole qui brûle, qu'on reste 2 heures et qu'on me ramène un reportage en expliquant aux gens des banlieues pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ben, c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est ça qu'il voudrait faire. Et il nous explique que c'est le nec plus ultra de rassembler le nombre de régions, de le faire passer de 15 à 7. Et surtout... que les conseils régionaux pourraient effectivement financer. Et quand je vois que c'est un président de région socialiste, Jacques Auxiette, qui lui est tout à fait prêt à reprendre, ben évidemment qu'il est prêt à reprendre, parce que qu'il soit de gauche ou de droite, l'ambition de tous les politiques, moi je suis un mec de gauche, mais malheureusement, comme Marcel, comme Pierre-Henri, on a tous eu affaire dans les postes qu'on a occupés comme journaliste, comme rédacteur-en-chef, comme aux pressions des hommes politiques qui soient de droite ou de gauche. Le tout, c'est qu'il y a des périodes où on peut résister, et puis il y a des périodes où on peut pas résister, on est viré. Bon. Mais néanmoins, ils ont tous la volonté de reprendre en main cet outil d'information, puisqu'ils ont pratiquement tous perdu la mainmise sur l'information dans la presse écrite quotidienne régionale, qu'ils ne maîtrisent plus ou mal. Et ce qu'ils voudraient, c'est effectivement une télévision le soir. Je discutais hier avec un confrère qui est venu, ce matin plutôt, avec un confrère dont je dirais le nom, mais qui est bon de cette région, à France 3, qui est venu faire un petit sujet sur le débat de ce soir, et qui me dit, mais... même avec Emmanueli, c'est insupportable. On détourne une équipe qu'on avait prévu d'envoyer en conférence de rédaction, comme a expliqué Pierre-Henri tout à l'heure, sur un événement. Et puis, il y a la com du Conseil général qui nous appelle et qui nous dit « Mais il y a aujourd'hui, Henri, il est en train de signer une charte, peu importe laquelle, on s'en fout. Ça serait quand même bien qu'il y ait la télé. » Et boum, le red chef qui est à Bordeaux, mon ami Olivier Loubet, lui, je peux dire le nom parce que c'est un connard, il est pas... à Toulouse, c'est pas grave, c'est le même. Il faut lui mettre une pierre autour du cou, l'envoyer au fond de la mer. Il détourne l'équipe. ou son il détourne l'équipe et puis on envoie faire l'image d'Emmanueli qui est en train de signer une charte. Mais je dis Emmanueli, en plus, lui, c'est un copain, contrairement à Loubet. Mais je veux dire, ils sont tous comme ça. Et imaginez demain si, effectivement, les conseils régionaux finançaient le fonctionnement de Télévision France 3, vous auriez ce que vous avez dans les pages locales de votre quotidien régional, la photo de monsieur le maire, de monsieur le député, de monsieur le conseiller général, de monsieur le conseiller régional, qui va inaugurer ce qu'il a créé grâce à nos impôts. Donc, nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas, c'est clair. Et juste, je crois que parce que, je ne sais pas jusqu'à quelle heure tu as prévu que ça aille, et puis il faut que Maurice parle, mais je crois que nous, les personnes, je voudrais venir sur la mobilisation indispensable pour l'audiovisuel comme pour l'ensemble des autres services publics de ce pays. Je veux dire, on pourrait penser aujourd'hui que, bon, bah, défendre France 2, France 3, France 3 un petit peu plus que France 2, tu m'excuses Michel, mais bon, c'est vrai, c'est comme ça. Bon, en plus, c'est pas moi qui ai dit que le journal du 20h, ils étaient ressemblants les deux. Je le pense aussi, donc c'est mieux. Je préfère que ce soit toi qui l'ai dit. Mais peut-être pour France 3, il y aurait un petit peu de mobilisation, mais moi, sincèrement, je pense que ce sera très difficile. Nous, à l'intérieur, on est mobilisés. Ils ne s'attendaient pas le 13 février, le 18 juin, quand l'intersyndicale en a décidé deux journées de grève suivies à 90% à France Télévisions, à Radio France, à l'INA. N'oublions jamais l'INA, cette mémoire de l'audiovisuel, de tout ce qu'on peut produire depuis des décennies et qui est dans une situation catastrophique à cause de Sarkozy. 90% de grévistes, 4000 salariés qui manifestent à Paris du jamais vu depuis 1974, puisqu'on est quelques-uns, on est rentré juste après 1974 dans l'audiovisuel, certains avant. Jamais vu, ça, ils ne s'y attendaient pas, ni Sarkozy quand il nous a reçus, ni Copé, ni ce pouvoir réactionnaire, ils ne s'y attendaient pas. Les syndicats, les salariés sont rentrés dans la bagarre. Là, on a encore 3 jours de vacances, Pierre, il a repris, on entre dans 3 jours, on va leur emmener la bagarre jusqu'au moment où il faudra l'amener, c'est clair. Quand ils vont débattre à l'Assemblée nationale, on y sera avant, pendant et après. Mais il est clair que nous ne pouvons pas mener la bataille de défense du service public audiovisuel seul, de l'intérieur, les salariés, ça n'est pas possible. C'est encore une fois pareil qu'à EDF, qu'à l'Éducation nationale ou qu'à la justice ou à la SNCF. On ne peut pas la mener seul. Si vous voulez conserver un secteur public, l'audiovisuel compris, il faudra que les citoyens s'en emparent de cette bagarre-là. Et nous, on va certainement, dans les quelques jours qui viennent, l'intersyndicale, appeler dans les régions à des débats comme celui qu'on a aujourd'hui. On était à Avignon avec Ralit il y a un mois. Mais à des débats dans vos municipalités, là où il y a des élus de droite, des sénateurs, des parlementaires, des députés de droite, du Modem, tous ceux qui sont prêts à casser à la session d'automne, à voter par leur loi scélérate la mort du service public audiovisuel, comme ils ont voté la mort d'EDF, comme ils sont en train d'essayer de voter la mort de la SNCF ou de l'Éducation nationale, si les salariés ne se font pas entendre, si les citoyens ne se font pas entendre dans les permanences des parlementaires pour aller leur dire à Paris, il y aura les salariés, mais nous, dans les régions, on vous tient comptable de ce que vous allez faire pour l'audiovisuel public. Sans vous, cette bataille, on ne la gagnera pas.
Alors, Pierre, juste un dernier complément. Il n'y a pas de journal Grande Région en Aquitaine. C'est encore un fief où on maintient un journal régional. Mais s'il y avait une fusion des régions Toulouse-Bordeaux et qu'on faisait un journal Grande Région, on aurait un journal dans lequel on parlerait à la fois de Collioure et de Soulac. Voilà.
Maurice, sur la dimension de la création, parce que juste une phrase que j'ai lue dans le rapport Copé en parlant des programmes, c'est cette notion de ni élitisme, ni confidentiel. Ça me pose toujours des questions quand j'entends ça. Ni élitisme, ni confidentiel, ça veut dire quoi? Et à Uzès, on est bien placé d'ailleurs pour avoir cette réflexion-là.
Attends, là c'est pas là-dessus que je voulais intervenir.
Fais comme tu sens.
C'est une mauvaise question que tu as posée.
Non, c'est une bonne question, mais bon. Non, moi, c'est sur la publicité. Hein. Alors, c'est vrai que je suis très partagé là-dessus. On a discuté beaucoup. Par principe, moi, je suis violemment contre la publicité. Pas seulement parce que, comme tu disais, Jean-François, la publicité, ça permet aussi d'aller aux toilettes, Non, l'introduction de la publicité à la télévision, en tout cas dans le service public, a été une catastrophe. ça a été le début du formatage des émissions. Parce que quand vous avez des gens qui payent la télévision, qui dépensent pour la télévision, je ne sais pas très bien les tarifs aujourd'hui, mais c'est des millions d'euros hein, quand ils payent des passages de messages télévisés. Combien, tu sais ? Bon. Non, mais je sais que c'est des chiffres astronomiques. Ils payent pas comme ça en disant faites ce que vous voulez avec l'argent, on vous paye. Hein, eux, ils veulent avoir du monde devant leur poste pour qu'on puisse écouter ou voir leurs messages publicitaires. Et donc, il y a une sorte d'engrenage qui se fait que, quel que soit service public ou privé, quel que soit le directeur aujourd'hui du service public, compte tenu de ce que représente la télévision dans son budget, la publicité dans son budget, il est obligé de tenir. Il y a cette course à l'audience. Une des principales choses qu'un directeur, que les directeurs, les responsables, le matin ou même le soir, au fur et à mesure que les programmes se déroulent, ils regardent l'audimat, ils regardent comment ça marche. Maintenant, on est capable de calculer l'audimat à un quart d'heure près, même moins maintenant, hein, à la seconde, vous voyez. Donc il court après ça. Hein. Et donc, ça modifie complètement les programmes. Je donne un exemple, c'est un petit exemple. Là, je viens de terminer un scénario. Première chose qu'on m'a dite, le début, il accroche pas assez. Il faut que ça accroche dans les 5 premières minutes. Sinon, ils vont zapper et ils vont aller ailleurs. Mais ça c'est la publicité qui a emmené cet état d'esprit. Donc, pour moi, c'est terrible sur le plan de la création. Et beaucoup de réalisateurs étaient pour la suppression de la publicité. Et là où Sarkozy a été habile, c'est qu'il a joué là-dessus. Hein, c'est soi-disant au nom de la qualité du service public qu'on va supprimer la publicité. Alors on n'est pas naïf. Hein, en même temps, je suis pas naïf. Je sais très bien que Sarkozy n'a pas fait ça pour améliorer les programmes ou pour que les programmes du service public soient meilleurs, tirent vers le haut. Hein, c'est parce que il veut satisfaire les copains, les Bouygues, etc. Et Bolloré et toute la bande. Hein, alors actuellement, on sait que TF1 perd du fric. Son audience diminue, hein, donc sa valeur, etc. Il faut le regonfler. Il en a besoin. On connaît les liens entre Bouygues, Sarkozy, on connaît les liens entre Bolloré et Sarkozy, etc., etc. C'est copains et coquins hein, ensemble. Alors donc moi je suis très partagé. Hein, ça m'embête beaucoup et en même temps je me rends compte qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, il faut défendre il faut défendre le système financier qui existe parce que sinon c'est vrai que ça, ils veulent faire crever la télé. Et je trouve ça terrible. Hein, voilà.
Alors maintenant, à vous la parole. On est contre la pub, mais il y a un monsieur là-bas. Lydie. Si. Prends un micro pour que tout le monde t'entende. Non.
Au-delà. Faut parler dedans ou à côté ? Au-delà de l'effectivité de ces réflexions légitimes, êtes-vous d'accord ou non pour constater qu'en 50 ans, depuis la popularisation et la démocratisation de la télévision, le lien social a disparu exactement dans le même sens ? Plus il y a eu de télévision dans les foyers, moins il y a eu de liens sociaux effectifs dans la société. Alors, si la télévision crève, accompagnez-la. Quant à EDF, s'il s'agit d'obérer l'avenir de vos petits-enfants, parce que personnellement, moi, j'ai même pas d'enfants, avec des centrales nucléaires, qu'elles crèvent aussi. Merci à tous et vive le service public tout de même.
Deux mots à la fois sur EDF et sur le lien social. je crois qu'on ne peut pas à la fois aujourd'hui, alors je sais bien, il y a les problèmes de retraitement des déchets nucléaires, mais on ne peut pas non plus se battre contre les émissions de CO2, ou alors on est complètement dans un monde... on décide tous qu'on arrête les frigos, qu'on arrête de rouler en bagnole, et ça, je ne suis pas sûr que ni moi ni vous ne soyons prêts à le faire dès demain. Donc effectivement, aujourd'hui, privatiser EDF, c'est remettre entre les mains des marchands quelque chose qui peut faire exploser la planète. On a suffisamment d'exemples, malheureusement, dans le monde où les centrales ont été privatisées pour montrer, et les récents incidents qui ont eu lieu montrent que s'il n'y a pas effectivement des agents formés avec des conditions de travail qui sont normales, on ne peut pas effectivement mettre le nucléaire entre les mains du privé. Ça, c'est un premier truc. Deuxième chose, sur le lien social. Sur le lien social, je crois que sur le lien social, il y a deux choses. Moi, je ne suis pas satisfait des programmes que fait ma chaîne, et on le critique assez suffisamment, puisque en tant que syndicat de journalistes, on sort souvent des tracts et on fait des interventions dans la rédaction sur les contenus même des programmes. Moi, quand j'entends un soir, par exemple, qu'au Parlement européen, il y a eu l'unanimité pour voter la directive Bolkestein, alors qu'il y a les députés communistes et les députés socialistes de France qui ont voté contre, j'appelle Marie Drucker et je lui dis « Marie, il n'y a pas une erreur, là. Bon, on sort un tract, il y a une rectification le lendemain. » Donc, on est les premiers à critiquer. Et effectivement, notamment sur les problèmes des banlieues, sur les problèmes des luttes sociales, on pense que nous ne sommes pas au niveau et qu'effectivement, nous sommes très critiquables. Cela dit, le lien social, c'est aussi la télévision, qu'on le veuille ou non. Alors, c'est vrai que ça a remplacé un certain lien social, mais ça en a créé un autre. Et je sais de quoi je parle parce que moi, je suis une famille de prolos. Et moi, je n'avais pas de télé chez mes parents quand j'étais minot. Ben, je peux vous dire qu'à la cour de récré, quand les autres gars de la cour de récré parlaient de ce qu'ils avaient vu comme programme à la télé à l'époque, Zorro, enfin je ne sais pas quoi, moi, je ne pouvais pas en parler parce qu'il n'y avait pas de télé chez mes parents. Donc, le lien social, c'est aussi la télé. Et c'est aussi ce qu'ils veulent briser. C'est aussi ce qu'ils veulent briser. En émettant sur le privé, en faisant ces télés qui aujourd'hui s'adressent à des communautés. Alors, je ne dis pas que, effectivement, moi, si j'étais d'origine, si j'étais de confession islamique, si j'étais beurre, si je vivais dans une cité, ben, je ne regarderais pas France 3 et France 2 parce qu'on n'en parle jamais. Jamais. Donc, j'irais sur les télécommunautaires. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Qu'il y ait des télécommunautaires, des radiocommunautaires, des télés ou des radios en langue bretonnante, en occitan, ça ne me gêne pas, c'est complémentaire pour moi avec nous. Le problème, c'est que je trouve scandaleux que sur France 3, par exemple, il n'y ait pas plus d'émissions en langue... C'est la langue d'oc ici encore, hein, ouais, un peu. Bon, dans mon pays, la langue niçoise ou autre, mais effectivement, ou le basque, effectivement. Donc, on ne crée plus du lien social, mais néanmoins, vous allez au bistrot le matin... De quoi ils discutent les gens, de ce qu'ils ont vu la veille au journal de 20h sur TF1 ou le 20h de France 2, mais un peu plus rarement, Michel. Bon, donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention en manipulant des concepts parce que c'est pas toujours aussi simple, c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a du gris au milieu.
Oui, non, sur le. Moi, je suis pas d'accord avec cette réaction. Je comprends très bien parce que moi-même, je porte un jugement sévère. Sur, mais comme un citoyen, comme n'importe quel citoyen, sur notre télé, hein, et sur nos programmes. Donc je crois que le problème, là aussi, hein, la publicité a joué son rôle. Le problème, c'est que c'est pas l'existence de la télé. La télé a apporté, demandez, allez dans les campagnes, allez dans ça a apporté des choses formidables aux gens. Hein, eux aussi, à l'époque, ils étaient isolés, etc. Ça leur a apporté plein de choses. Le problème, c'est la tenue des programmes. Alors, il y a une chose qui me semble très grave, c'est qu'aujourd'hui, les programmes, on demande aux programmes non pas de faire réfléchir ou de montrer ou d'avoir le temps de regarder les choses, d'y penser, de réfléchir, il faut capter l'œil du spectateur. Maintenant, vous voyez le rythme. Avant, quand on voit Gouverneur de la Rosée, quelqu'un me disait « Oh là là, vous preniez votre temps pour montrer les choses. » Aujourd'hui, on nous dit, on a cette pression, que les plans durent trop vite, trop, sont trop longs. Il faut qu'un plan il dure une seconde et demie. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils veulent, c'est pas vous montrer des choses, c'est capter votre regard. Point à la ligne. Hein, que vous soyez captif de ce qu'ils veulent faire passer. Je me souviens, lors d'un voyage aux États-Unis, comme ça, on était en délégation, pour savoir pourquoi la télévision française n'avait pas plus de programmes sur les chaînes américaines. Bon, alors on a vite compris que, d'après ce qu'on nous disait, le public américain n'aimait ni les émissions sous-titrées ni doublées. Alors ça allait vite. Mais on a eu l'occasion de rencontrer un grand patron d'une chaîne américaine, d'une des grandes chaînes américaines. Et pendant la discussion, on discutait et je lui ai posé la question, je lui ai dit, en fin de compte, hein, parce qu'il me parlait audimat, c'est plus important, si le lendemain matin, une émission n'a pas marché, on la fout au panier et ajoutait-il, enfin dans un sac, et ajoutait-il, on vous la revendra plus tard. Alors je lui ai dit, au bout d'un moment, je lui ai demandé, mec, c'est quoi pour vous une bonne émission de télévision ? Comment vous ? Alors là, il a réfléchi, hein, il était un mec, il a eu le cigare, les pieds sur la table, enfin la caricature du boss. Et il réfléchit et il me dit, pour moi, une bonne émission de télévision, c'est une émission qui ne passe pas derrière le regard. Il ne faut pas que ça atteigne le cerveau. Voilà. Faut que ça capte, point à la ligne. Sauf pour Coca-Cola, mais ça c'est... Voilà, donc moi je suis pas d'accord avec les réactions. C'est vrai que notre télévision n'est pas digne de ce qu'elle devrait être, de ce qu'elle devrait apporter aux gens. Mais c'est pas une raison pour dire pas de télévision. Hein.
Oui, je voudrais revenir sur les télévisions régionales. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de l'information. Je ne sais pas si le problème, il est vraiment sur faire 13 ou 7 régions, parce qu'on a quand même l'exemple de pays européens qui ont des télévisions régionales de plein exercice, comme l'Allemagne ou l'Espagne, qui sont aussi financées par des collectivités territoriales, sans que je pense à un flux sur des lignes éditoriales ou autres. Après, tout dépend comment c'est géré. Parce que tout à l'heure, il y a une question qui a été posée sur la création où il n'y a pas eu vraiment de réponse. Et je pense, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter il y a quelques années avec les syndicats, je suis producteur indépendant en Aquitaine, et en disant aussi que des télévisions de plein exercice régional, ça crée aussi des emplois de la création locale. Alors on sait que nos régions sont un peu petites. Vous avez France 3, Normandie, Haute-Normandie, Basse-Normandie sur 4 départements, Alsace aussi sur 2 départements. Bon, est-ce qu'il ne faut pas regrouper ça déjà pour avoir des moyens financiers plus importants, pour avoir des plages de diffusion plus importantes où interviendrait aussi la création. Vous avez beaucoup parlé d'information, mais il y a aussi la création qui n'est pas forcément locale. Je suis d'accord avec vous aussi pour qu'il y ait de la création sur l'Occitan, le Basque. France 3 ne respecte pas ses engagements par rapport aux financements régionaux dans notre région. Je pense que ça serait important de réfléchir aussi à ça. Moi, je fais partie de l'association des producteurs régionaux de toute la France et c'est nous qui étions intervenus auprès de la commission COPE pour justement que ce problème ressorte, qui avait été complètement oublié. Ça a été fait grâce au sénateur Renard qui a quand même soutenu notre action et que ça a été complètement dissous dans ce qui a été remis à Sarkozy. Et que l'idée des régions, ça serait de faire des films associatifs sur la pêche dans le coin ou autre. Alors là, on oublie complètement l'information intelligente et la création. Donc, savoir aussi là-dessus, quelle est la réflexion. Vous parliez tout à l'heure d'influer sur nos élus. C'est ce que nous faisons, nous, et on est tout à fait d'accord pour travailler avec l'interne à France 3. C'est quelque chose qui est un peu oublié, qui ne rentre pas forcément dans les débats. Je pense que auprès des élus, c'est quelque chose d'important, parce qu'ils ont besoin aussi, parce que ça crée des emplois locaux, qui risquent de disparaître aujourd'hui, parce que vous savez comme moi, pour ceux qui sont en Aquitaine, que sur la création, on est passé de 25 documentaires il y a 3 ans à 10 en 2009. Et que sur la création locale, c'est grave, sur les créateurs, sur les techniciens, sur tout le monde. Et que ça a été un petit peu oublié.
Alors, Pierre va répondre. Pierre-Henri aussi. Après, il y a une autre question à droite. Et puis on va être obligé un peu d'arrêter parce qu'il y a un concert à 21h30. Il ne faut pas qu'on soit trop décalé.
Ça va être assez rapide. Vous avez comparé avec l'Allemagne. Bon, ça va être la comparaison. On peut la faire au niveau de la redevance. La redevance en France, c'est 2,7 milliards. En Allemagne, c'est le double. Bon, voilà, ça donne déjà l'échelle de ce qu'on peut faire avec un tel financement. Quant au projet donc, qui a émergé de la commission COPE, donc de passer de 13 à 7 régions, mais avec 7 chaînes de plein exercice, s'il a été pour l'instant, je pense pour l'instant, même définitivement écarté, c'est pour un problème budgétaire. Il manque 1 milliard. Et avec ça, on pourrait en faire une planète programme régionale. On pourrait en faire plusieurs. On a un quart numérique à France 3 Aquitaine. Il est au garage, il pourrait être là ce soir pour capter des spectacles. Voilà.
Oui, je crois que moi aussi je suis partagé comme Maurice Felwick, mais en même temps, si on dit qu'on supprime la publicité sur les chaînes publiques, il faut trouver des moyens compensatoires. Pour l'instant, ils n'ont pas été trouvés, donc on se dirige tout droit vers des difficultés majeures. Et par rapport à l'intervenant précédent, bien sûr que oui, la télévision, elle n'a pas forcément joué tout son rôle dans le lien social et quelquefois, elle en a détruit une partie. Mais en même temps, si aujourd'hui, la télévision publique disparaît, elle peut disparaître ou s'amenuiser pour rester comme la télévision publique américaine, une petite chaîne dans son coin, là, et puis tout le reste appartient au privé. Je suis désolé, mais ce n'est pas ça qui va encourager, je dirais, la renaissance du lien social. C'est parce que ça n'intéresse pas du tout Bouygues de faire du lien social. Hein. Nous, ça nous intéresse un peu. Ça nous a intéressé, ça intéresse encore ceux qui y sont, je crois, mais pas ni Bouygues, ni Taverneau, bon, ni M6, ni TF1. Bon. Par rapport à... Moi, je suis d'accord avec toi sur l'idée d'un regroupement avec des moyens concernant France 3, parce que c'est vrai que il y a des talents en région. Moi, maintenant, je travaille en région, donc je sais qu'il y en a. Je le savais un peu avant, mais maintenant, je le sais encore mieux. Que ces talents ne sont pas toujours exploités, parce que quand on est à Paris, on ne les connaît pas. Quelquefois, on les méprise, hélas. On les ignore ou on les méprise. Donc, ça existe. Et moi, je serais pour une évolution de France 3, même si j'en parle en tant qu'ancien de France 2, c'est peut-être plus facile pour les gens que pour les gens de France 3, mais je serais pour une évolution de France 3 avec effectivement des régions plus fortes, avec des moyens importants, et effectivement une importance sur l'antenne beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Voilà ce que je pense.
Juste, oui. Je crois qu'il faut juste un mot. Il ne faut surtout pas opposer les moyens de production de France 3 et les moyens de production privés. Je crois qu'aujourd'hui, je pense que tu es au courant, mais peut-être que les citoyens qui sont là ne sont pas au courant. Parmi le projet de loi qui va nous être présenté, sur lequel travaille, j'allais dire Tasca, tu vois, sur lequel travaille Albanel là, en ce moment et qui sera présenté avec le projet de loi de réforme audiovisuelle, il y a la réforme des fameux décrets Tasca. C'est ce qu'expliquait Pierre tout à l'heure, les décrets Tasca. C'est ce qui force depuis Mme Tasca, donc ministre socialiste, la télévision publique de financer les producteurs privés. C'était peut-être dans une bonne intention à l'époque, à savoir faire un maillage et permettre de la production régionale avec des petits producteurs régionaux. Mais on est arrivé à quoi aujourd'hui avec ces fameux décrets ? C'est-à-dire que sur l'argent de la redevance, sur l'argent qui devrait financer des programmes et des petits producteurs privés, y compris à côté de l'outil de production interne de France 3, moi, quand je vais discuter à la commission COPE avec Hervé Chabalier, l'agence CAPA, qui est le grand producteur qui... En fait, c'était le patron de la commission COPE. On a bien vu, nous, quand on a été auditionné, c'était COPE qui dirigeait les débats dans la commission. Ce n'était pas les élus, sénateurs, députés, socialistes et communistes qui étaient là. Représentants de l'audiovisuel public dans la commission COPE, il n'y en avait pas. Ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que c'est une commission créée pour sauver, soi-disant, l'audiovisuel public. Il n'y a pas un seul représentant de l'audiovisuel public dedans. Il y a que des représentants des producteurs privés et pas des petits producteurs. Des gros producteurs. Moi, quand je vais débattre avec Chabalier à RTL, on sort de la réunion avec Sarkozy à la remise du rapport COPE. Je me retrouve avec RTL, avec Chabalier en face de moi. Et je le vois arriver dans sa grosse Mercedes avec son chauffeur. Et il vient m'expliquer. Et Chabalier, il vient pleurer parce que Sarkozy a dit on va peut-être toucher un petit peu au décret Tasca pour permettre à France Télévisions de pouvoir vendre les programmes qu'il a contribué à financer au-delà de deux diffusions. et en enlever un petit peu au gros. Bon, donc je crois qu'il ne faut pas opposer. Ce qui pouvait être une bonne chose au départ doit être revu, je pense, aujourd'hui, pour effectivement permettre la survie, pas la survie, la vie de la créativité des producteurs privés en région aux côtés de la production interne de France 3, avec des salariés qui sont, comme nous, payés aux conventions collectives, déclarés à temps plein et pas payés un tiers, deux tiers par les ACEDIC, puisque je ne dis pas que c'est ton cas, mais on sait très bien aujourd'hui que les producteurs privés, ils font travailler sur un mois pour un documentaire, une création des intermittents du spectacle. On les déclare deux mois, et puis on les déclare deux tiers du mois, et le troisième tiers, ils travaillent pour le producteur privé, mais c'est les ACEDIC qui payent parce qu'ils ne sont pas déclarés. Là aussi, effectivement. Non, mais bon. Non, mais je crois que, bon, c'est. À France 3, on respecte les heures sup, on paye les heures sup. On sait très bien que dans les boîtes de prod, et on sait parce que, bon. Et dernier point, c'était sur. Voilà, respecter le temps de parole, donc je m'arrête.
Oui, je voulais juste dire. Et finalement, si ce n'était pas une chance qu'on coupe la pub au service public, et si justement ça ne permettait pas de réfléchir, en fait, à la seule solution qui, moi, me paraît intéressante, c'est de monter la redevance de l'audiovisuel. On est l'une des moins chères d'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à mettre la main au porte-monaie, à revoir tous et à revoir et à reconstruire un vrai service public avec notre argent, avec votre argent, qui n'irait effectivement pas. Alors évidemment, il faudrait recomposer tout le paysage parce que ces maisons de production, ce Chabalier, etc., où il y a pire, hein, il y a aussi ces maisons de production qui signent des émissions qui ne les font pas, comme Thierry Ardisson, par exemple, qui est quand même le roi en la matière, qui signe des émissions qui, pour une raison X, ne fait plus assez d'audience et du coup on lui paye toutes les émissions avec nos sous, bien évidemment. Hein. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à mettre la main au porte-monnaie, à remonter la redevance de l'audiovisuel? Est-ce qu'on ne peut pas faire une lettre ouverte, par exemple, les professionnels, en demandant que le service public soit financé? On ne peut pas faire des programmes avec rien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire signer comme ça à des groupes de Français partout une pétition qu'on mettrait sur Internet, par exemple? Je dis n'importe quoi peut-être, mais j'en sais rien. Est-ce qu'on ne peut pas demander ça? Est-ce qu'on ne peut pas demander, justement, à un moment où on est en train de crever, est-ce qu'on ne peut pas demander que le service public, finalement, est-ce que ce n'est pas une chance? Est-ce qu'on n'est pas à une charnière qui nous permettrait justement de rebondir et de recomposer complètement le service public? Je sais que c'est idéaliste, mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Oui, ce que tu dis montre bien à quel point cette histoire nous met tous dans des contradictions insolubles, quoi. Hein, c'est l'arnaque. C'est une arnaque énorme. C'est vraiment l'arnaque du siècle, quoi.
Bon, y a...
la décision de Sarkozy, apparemment brutalement, mais en fait mûrement réfléchie, le casse du siècle, de supprimer la pub. Évidemment, dans un premier temps, bon, qu'est-ce que c'est la pub? C'est ce qu'a défini très bien Le Lait, il y a un an, rappelez-vous, un an ou deux, je ne sais plus, quand il a dit qu'est-ce que je vends à Coca-Cola? Je lui vends du temps de cerveau humain disponible. C'est l'histoire du joueur de flûte et du troupeau de rats qui le suit. Hein, les programmes, pour eux, ça n'a qu'une raison, c'est d'emmener la foule vers la pub qui arrive derrière. Ce n'est pas autre chose. Alors, Fillon a osé dire à un moment, il n'y a pas de différence entre le public et le privé. Mais oui, mais si, il y a une énorme différence, quand même, malgré toutes les contradictions. C'est vrai que tous les jours, moi, j'arrive plus à regarder le journal de ma chaîne, France 2. Bon, c'est plus regardable, ce journal télévisé, et c'est le même que celui de TF1, c'est vrai. C'est un scandale. Puis, bon, rappelez-vous du temps de Balladur où le journal de France 2 était devenu une espèce d'officine baladurienne, quoi, carrément. On faisait la propagande baladurienne. Bon, et ça a continué avec Sarkozy, la période où on a fait du sécuritaire pour faire passer la droite sur France 2 comme sur TF1. C'était en 2002 et ça a marché. Bon. Tout ça est complètement scandaleux et il est clair que l'idéal, ça serait qu'il n'y ait pas de pub. Mais il y a une énorme différence entre les chaînes de services publics et les chaînes de services privés. C'est que les chaînes de services publics, avec toutes leurs contradictions, leurs imperfections, leur manque de moyens pour faire des meilleurs programmes et de la meilleure information, etc., ce sont des chaînes qui ont une mission qui est définie, qui a été définie par les élus du peuple. Informer, distraire, éduquer. Alors, informer, c'est nul, souvent, hein, d'accord, mais pas toujours. Il y a aussi des bons magazines. Il y a aussi des documentaires. Bon, il y a les grandes fictions formidables qu'on trouve beaucoup plus sur le service public que sur le service privé. Mais les documentaires. Le documentaire, c'est l'un des fleurons de la télévision. Qu'est-ce que c'est la télévision sans les documentaires? Ça a toujours été. Rappelez-vous les grands documentaires de Michel Mitrani, de Jacques Crière, par exemple, hein, qui est très malade en ce moment et que je salue. Je ne sais pas si vous avez vu un documentaire qui s'appelle Les Matinales, sur les femmes qui allaient faire le ménage la nuit. C'est un chef-d'œuvre absolu. On pourrait le revoir 10 fois, comme le gouverneur de la Rosée que vous avez vu ces derniers jours. Le documentaire, il n'y en a que sur le service public, à part un petit peu encore sur Canal+. Canal+ en a fait beaucoup, il n'en fait plus. Et il n'y en a plus sur TF1, il n'y en a plus sur M6, mais plus du tout. Pas seulement des documentaires qui parlent des problèmes sociaux. Il n'y a plus de documentaires du tout. Voilà. Alors, l'arnaque est énorme. Parce que est-ce qu'on peut croire Sarkozy quand il dit qu'il est contre des programmes qui abaissent la qualité des émissions télévisées, puisque au contraire, son but, c'est de renforcer la télévision privée qui n'a pas d'autre objectif que de conduire les téléspectateurs vers les zones de publicité et qui, en plus, avec la télé-réalité, par exemple, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais enfin, c'est quand même une entreprise d'abrutissement du peuple et de la jeunesse.
Non, juste pour revenir sur ce que disait et Clore, parce qu'ils ne vont plus nous servir à la cafétéria. Vous ne savez pas ça encore. Moi, je le sais, je suis un habitué. Juste pour rebondir sur le mot d'arnaque que tu employais, Marcel. Dans la vie démocratique, il y a des moments extrêmement rares, précieux pour la réflexion et l'engagement, qui sont les moments où l'arnaque se voit. Celle-là, elle se voit comme... Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu des comme ça. Et dans ces situations-là, où l'arnaque se voit, où les ficelles sont tellement grosses, qu'est-ce qu'on voit? On voit le choix de société du peuple. Et ce que tu disais, Jean-François, c'était très juste. Maintenant, ce n'est pas à nous en interne de se battre, car on va se battre, on est mobilisé, on est inquiet. Moi, je viens d'une famille aussi de prolos et j'ai découvert tellement de choses grâce à la télévision. Mais c'est à vous, téléspectateurs, vous qui vous retrouvez devant cette arnaque aussi visible. Ne me dites pas que vous ne savez pas. Vous savez tous les tenants et les aboutissants, et Bouygues, et Bolloré, et la commission, et le fric, et le service public. Vous savez tout ça. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous de vous retrouver devant une responsabilité morale, éthique et sociétale.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce que vous n'avez pas dit, c'est quand même que les personnes âgées et les personnes en difficulté vont avoir à payer la redevance. Vous l'avez dit ? Que les personnes âgées et les personnes en difficulté vont avoir à payer la redevance. Et quel est le résultat ? C'est que les personnes âgées qui n'ont pas d'argent vont arrêter de regarder la télévision parce que ça représente un coût qui est trop important pour eux, pour elles. Ensuite, pour l'augmentation de la redevance, moi, je voulais vous dire une chose, je suis complètement contre. Je pense que de toute façon, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Et que peut-être sur tout l'ensemble de la télévision qui est produite, il y a peut-être 5% d'intéressant sur 95% de merde. Donc de toute façon, chaque fois que j'ouvre mon poste de télévision, je l'éteins aussi sec. L'information, c'est une information tronquée. Et ça, on peut le voir de toute façon à travers Internet maintenant, où on regarde Internet, où on a une information qui est de toute façon continuelle à côté de ce journal qui nous est déversé aux heures des repas là voilà et qui est tronqué.
On va essayer d'y répondre juste après toi, après on arrête parce qu'il faut arrêter ça, va arrêter une grève.
Juste un mot sur le documentaire, Marcel, j'adore vos films, vous avez parlé de Pierre Crière, mais est-ce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu des films, est-ce qu'on a vu récemment des films comme ça sur le documentaire France Télévisions, enfin le service public, est quand même aujourd'hui très déficitaire. Enfin, quand on voit les films sur le GIGN, sur France 3, les prime time que nous a collé de Carolis en disant que c'est du documentaire, aujourd'hui, il y a le documentaire pour en faire aussi. Quand j'arrive à France 5, on me dit il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas un tel, il ne faut pas machin. C'est fini, ces histoires-là. Il ne faut pas dire que le documentaire aujourd'hui sur le service public existe encore avec de la valeur. Jean-Michel Carré, il ne trouve plus. Andrew Quin, il l'a envoyé chier. Carrel, il en fait encore un peu. Mais vous, est-ce que vous arrivez encore à caser vraiment votre travail d'auteur intégralement sans avoir les contraintes des responsables de case?
Ben oui,
dans France 5, ça n'existe plus.
Dans toutes ces contradictions-là, par exemple, moi, j'ai fait 4 documentaires sur le monde du travail.
Ils sont exceptionnels.
En toute liberté et avec les moyens qu'il fallait et avec le temps qu'il fallait.
Il y a combien de temps?
Ben, le dernier est passé en décembre, dernier.
Aujourd'hui, c'est
en décembre dernier. On est en train, avec Maurice Felwig, d'en fabriquer un autre.
Avec qui?
France 2.
C'est exceptionnel.
Pour France 2.
C'est exceptionnel. Mais Andrew Quin l'a envoyé chez Jean-Michel Carré il n'y a pas longtemps sur son travail.
Mais, oui, non, mais bien sûr, il faut se battre. Jean-Michel Carré est un grand documentariste.
Oui, mais on ne le veut plus.
Il va falloir se battre, c'est sûr. Mais il ne s'en fait que sur le service public.
Il s'en fait que
France 5, France 3, Arte, etc.
Oui, d'accord, mais ça devient quant à la redevance,
il est évident qu'il faut qu'il y ait des exonérations pour les gens en difficulté, c'est évident.
Et qu'elle soit élevée,
il y en a eu pendant très longtemps. Il y avait un tout petit problème parce que pendant 20 ans, les exonérations pour les gens en difficulté, c'est le service public qui les a payés et pas le gouvernement. Ça nous a coûté à nous, service public, 20 milliards. 20 milliards.
Bon, on voit que ce sujet est passionnant. Et moi, ce que disait tout à l'heure Jean-François, dans les semaines qui vont arriver, il va y avoir besoin de porter le débat dans les entreprises où chacun, quand on a du boulot, on est, dans les localités, les départements, parce qu'il est évident que l'enjeu de l'audiovisuel public, mobilisation des personnels, mais ce que disait Jean-François, c'est un enjeu démocratique qui concerne tous les citoyens. Donc je vous invite, partout où vous allez pouvoir être, dans vos entreprises et dans vos localités. Nous, déjà en Aquitaine, on va se rencontrer dans les jours qui suivent avec Pierre et le syndicat pour voir comment, dans les territoires, on va pouvoir monter des débats, rassembler les gens, être force de proposition, parce qu'on est là devant un combat, démocratique, de citoyenneté, qu'il ne faut pas louper. Voilà. Je vous remercie. Je m'excuse, il y avait plein de questions, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter.